Mais avant, on va faire un petit récapitulatif de ce qui a été vu sur la notion de la consécration. Rappelons que la consécration n'est pas un activisme, mais que c'est un état de cœur. Et que là où il y a un état de cœur, alors il y a tout qui découle de cet état de cœur. Et la première chose que nous avons vue, c'est par rapport à chaque fois à des paroles que Jésus a pu dire, par rapport à la consécration que Jésus a dans notre vie. Est-ce que Jésus n'est qu'un élément de notre vie, ou est-il le centre de notre vie? C'est la notion de la consécration. Si quelqu'un, Luc 14, 26, si quelqu'un ne me préfère pas à son frère, à sa mère, à son père, à ses voisins, à son loisir, il ne peut pas être mon disciple. Donc la notion de consécration, elle est importante. Et nous avons surtout vu qu'il y avait aussi une bénédiction, parce que quand Jésus est véritablement le centre de notre vie, alors c'est lui qui met de l'harmonie dans tout le reste de notre existence, n'est-ce pas? La consécration relative à la parole de Dieu. Nous arrivons bientôt à un événement extraordinaire mondial. Lequel? Jésus revient, amen. Il vient chercher son église. Mais il ne va pas chercher ceux qui vont à l'église. Ils vont chercher celui qui ont l'amour de la vérité. Il va plutôt, au contraire, on parlait en négatif, il va parler de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ils seront surpris. Là encore, l'important dans notre vie chrétienne n'est pas de savoir des choses sur Dieu. Il y a des gens qui s'en savent beaucoup plus que moi à ce niveau-là. Ils savent les versets par cœur, ils sont formidables. Mais où est notre amour pour la vérité? Notre désir. Le psalmiste parlait, quand il parle de la parole de Dieu, il en parle comme ses délices, ses merveilles. Si quelqu'un ne garde pas ma parole, il ne verra pas la mort. Garder la parole, aimer la parole, ça c'est la garantie du salut. Et c'est en ce sens que l'on voit quelqu'un qui est consacré à sa parole. La consécration relative au service. Rappelez-vous Jacques 2, la foi sans les œuvres, ça sert à rien, c'est vain, ça n'a pas de sens, pas de sens. Et on avait pris le temps de réfléchir où Dieu nous avait mis en garde. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et on avait vu, non pas que Dieu amène la malédiction, mais il parle des malheureuses conséquences quand nous sommes négligents dans le service. Et on avait vu toute une série de personnages bien connus, mais qui ont eu leur vie cassée, arrêtée, à cause de leur négligence. Par contre, il y a de la joie. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous. Il y a de la joie. C'est dans ce passage qui nous dit aussi que celui qui remplit bien son ministère acquiert un rang honorable. Et servir le Seigneur avec consécration, avec sérieux, ça donne de l'affermissement spirituel. Quand on est négligent dans notre service, c'est là que les choses commencent à patiner dans notre cœur et dans notre vie. Idem pour les offrandes. Et on avait vu qu'il y avait un vrai parallèle identique entre la négligence dans le service et la négligence dans les offrandes, et la bénédiction qu'il y a à s'engager dans un service et la bénédiction qu'il y a à s'engager dans les offrandes. Et la semaine dernière, nous avions vu la notion du prochain. Là aussi, c'était important. Vous connaissez pour la plupart ce passage quand cet homme a dit « Mais qui est mon prochain ?» Tu as entendu ? Qui est-ce que je dois aimer ? Parce que c'est le sens de sa question. Mais rappelez-vous la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas « Ton prochain, c'est lui ». La réponse de Jésus, c'est « Toi ». Deviens le prochain. Toi, deviens celui qui est aimable. Toi, va au-devant des autres. Et on avait vu qu'il y a deux notions de consécration. La consécration avec le faux consacré, vous savez, celui qui est dans le temple. Ah, je te loue, Seigneur, je ne suis pas comme le reste du monde, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un menteur, moi je donne la dîme de mes offres. Oh, regardez, comme je suis un bon chrétien évangélique. Non, c'est faux. Tant que tu es le centre de ta vie, tu es un mauvais. Mais on avait vu l'exemple du Samaritain. Qui par compassion a agi, qui n'a pas regardé à l'apparence, qui a pris du temps, qui a fait un détour, qui a aimé, qui a consacré de l'énergie et de l'argent. Considérons les gens comme Dieu les considère. C'est ça la vraie consécration. Comment je regarde mon prochain? Est-ce que je le regarde avec le regard que Dieu a? Et puis on avait vu que agir en faveur des autres, comme Dieu voudrait agir envers eux, ça c'est la consécration. J'agis en l'égard de mon frère, non pas comme moi j'ai envie d'agir, mais tel que Dieu voudrait que je puisse agir en sa faveur. Il y a encore des imparfaits ici? Il y a encore des gens qui ont envie d'aller plus loin? Parce que aujourd'hui, je vous invite à lire en Matthieu chapitre 12. Tu peux afficher la diapo d'après. Matthieu 12, oui, effectivement, hein, n'oublions pas qu'être disciple de Jésus-Christ n'est pas une religion, mais c'est la transformation de notre vie. dès que nous commençons à rentrer dans une routine de satisfaction, pour ne pas dire d'auto-satisfaction, nous mourons. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui nous y pousse, qui nous y colle. Lisons le verset 34 à 37. Race de vipères. Non, c'est pas pour vous hein, que Jésus parlait. Hein. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Donc il est en train de dire là, vous ne pouvez pas dire de bonnes choses, c'est le dedans qui est déjà mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Écoutez ce verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes et les femmes, surtout les femmes, vous allez voir pourquoi, rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et là, on ravale tous notre salive en disant « Waouh !» Ce qui va nous intéresser, là, dans notre histoire, c'est ce que Jésus nous dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Peut-être est-ce que certains ont d'autres mots, mais dans les autres traductions, ce mot vaine est souvent traduit par inutile, oiseuse. Alors ça fait partie aussi des noms qu'on n'utilise pas, c'est pas un nom d'oiseau, non, non. Mais ça veut dire un peu superflu. Toutes ces paroles, vous savez, que l'on dit spontanément, sans réflexion, ce qui sort là, dans notre habitude, dans notre quotidien, toutes ces paroles que l'on dit à table, ces paroles qu'on dit en voiture, toutes ces paroles qui n'ont pas forcément un cadre structuré ou qui ont une valeur d'être quelque chose de constructif ou de réfléchi. C'est vraiment ce qui sort de la bouche sans calcul. Et Dieu nous dit, c'est pas sur des belles prières que tu seras jugé. C'est pas sur l'enseignement que tu apportes à l'église. Ça... Chacun viendrait derrière ce pupitre et dirait de bonnes choses, n'est-ce pas? C'est pas ce que tu dis à l'école du dimanche qui est un timbre. C'est pas ce que tu vas dire à ton voisin pour l'encourager à venir à l'église. C'est pas sur ces paroles-là que tu seras jugé. C'est pas quand tu donnes tes leçons à tes enfants. Tu sais, faut pas faire ci, faut pas ça. Ça, on sait ce qui est de bon, ce qui est pas bon. Mais Dieu nous dit qu'on sera jugé sur toutes les autres paroles. Sur notre conversation, à table, en boutique, au téléphone, tout seul. Sur le chat, sur les tweets. Enfin, maintenant, il y a multiplication de moyens de communication. De communication oiseuse. Hein. Le psalmiste vous donne les références. Au chapitre 73, verset 15, dit « Si je voulais parler comme eux, en parlant des gens du monde, je trahirais la race de tes enfants. » Le psalmiste dit, si je disais, je veux parler comme eux, je veux parler comme les gens du monde, je veux avoir le même vocabulaire, la même manière de parler, alors je trahirais la race de tes enfants. Et oui, parce que si nous sommes d'accord avec tout ce que nous avons vu avant, quant à la consécration dans notre relation à Dieu, dans notre relation à la parole de Dieu, dans notre relation vis-à-vis des autres, dans notre relation vis-à-vis du service dans l'église, alors forcément, on parle autrement. C'est pas possible autrement. Et si on commence à parler comme les gens qui sont dehors, on est en train de trahir le Seigneur lui-même. Je dirais que nos paroles nous trahissent au sens où elles révèlent ce que l'on est réellement. Et je ne parle pas là des paroles bien amenées à l'église, les belles prières. Hein. On peut parler de ces paroles qui sont dites dans notre intimité, qui sont tellement naturelles. Alors, bien sûr, on ne sera pas exhaustif ce matin. Le but, c'est de bien comprendre la logique. J'ai voulu voir avec vous quatre situations. Quatre situations qui pourraient nous être très familières. La première situation se trouve en Luc. Alors ça, c'est quatre mauvaises situations et nous verrons quatre bonnes situations par la suite. Luc chapitre 9, entre les versets 52 et 55, c'est cette histoire où Jésus marche en direction de Jérusalem et il est près du bourg de Samarie. Il demande à pouvoir s'arrêter la nuit et voilà que les gens refusent. Jésus n'est pas seul, il est accompagné de Jacques et de Jean. Et les disciples, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Sympa comme invitation quand même. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Voilà une situation que je dirais qu'on pourrait tellement s'y coller. On est contrarié dans une situation. Et les disciples, enfin je trouve leur spontanéité incroyable. « Est-ce que tu veux qu'on envoie le feu, les cramer tous ?» Parce que c'est ça qu'ils disent en langage français. « Tu veux qu'on envoie la bombe là-bas et... » Tu vois, on a la force, tu sais, nous. En plus, on se dit, mais tu parles à qui? Enfin, c'est comme s'ils avaient le pouvoir. Enfin, ils se prenaient pour des lits, quoi. Quelle spontanéité a tué notre prochain? Quelle spontanéité à le descendre, à le massacrer, à le tuer, à chercher vraiment à exprimer le désir de faire mal. Ne sommes-nous pas tous susceptibles d'être comme ces Jacques et ces Jean, sur une contrariété, sur une frustration? En plus, là, c'est une vraie histoire de racisme, hein, pardonnez-moi. Hein. Les Samaritains, les Judéens, ils ne se supportent pas. Et dans notre société qui nous pousse de plus en plus à la stigmatisation du prochain, allons-nous parler comme les gens du monde? Nous trahirons la race à laquelle le Seigneur nous a appelés, à la sainte vocation. Nous sommes appelés, non pas à maudire, mais à bénir, amen, nos ennemis. Même si cela est justifié, nous ne sommes pas appelés à laisser couler de notre bouche le venin de notre colère. Mais nous pouvons faire pareil. Toutes les fois où nous parlons si rapidement de ces phrases, « Ah, avec lui, c'est toujours pareil !» C'est le feu qui descend sur cet homme, vous savez. Avec elle, c'est toujours la même chose. On l'enferme, on l'embrigade, on la tue. Toutes ces phrases que l'on dit si spontanément et qui ont une valeur de flèche, de gifle, de feu sur cette personne. C'est révélateur de quoi? De notre esprit, dit Jésus. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé quand vous parlez comme ça? Mais secoue-toi, réveille-toi! Mais vous êtes en train de prendre conscience de ce qui sort de ta bouche, de votre bouche! Même si cela peut sortir de notre bouche, que nous puissions avoir la spontanéité tout simplement de nous repentir. Amen. On est tous maladroits, on l'est tous. Mais il y a une différence entre le fait de garder ce genre de mauvaise habitude et le fait d'en prendre conscience. De dire, mais quelle mentalité, quel esprit m'anime à parler ainsi? La situation se trouve en Marc, chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Sur ce chemin-là, Jésus ne fait pas partie de la conversation, ils arrivent à la maison et s'installent. « Au fait, vous discutiez de quoi là en chemin ?»« Oh, le silence, le froid !» Pourquoi? Quel est le malaise? Eh oui, en chemin, ils étaient en train de dire, eh, c'est qui le meilleur? C'est moi. Attends, toi, c'est pas parce que tu marches sur l'eau, t'as vu toutes les boulettes que tu fais à côté? Nous on est, on en fait moins, mais nous on est plus priants, nous on est persévérants, nous on parle pas comme toi. Oui, mais... Et à 12, hein, ça doit en faire la conversation. Hein. Heureusement qu'il n'y ait pas de femmes. Hein. Non, parce que les femmes n'ont pas ce genre de conversation, c'est ce que je voulais dire. Drôle de conversation. Méfions-nous de la jalousie. Méfions-nous de la rivalité. Méfions-nous de la comparaison. Méfions-nous de dire, ah mais lui il est comme ci, et moi je suis comme ça. Méfions-nous d'évaluer un talent, une disposition, une capacité. C'est le début de la guerre. C'est le début de la division. C'est le début de la folie selon ce monde. Il y a d'autres manières, vous savez, que de discuter, à savoir qui est le plus grand, le plus petit, qui est le meilleur. Il y a d'autres manières qui sont peut-être plus communes. Quand on cherche à se justifier, à avoir le dernier mot, à être là, à chercher toujours à avoir raison. Mais bien aimé, tant que nous avons besoin de nous justifier, nous ne sommes pas libres de nous-mêmes. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous êtes graciés, sauvés en Jésus-Christ. Vous ne vivez plus à cause du regard de Pierre, Paul, Jacques. Vous ne vivez plus en fonction du regard de ce que les gens ont à dire. Vous êtes libérés des hommes. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Parce que quand on cherche à savoir qui est le plus grand, quand on cherche à savoir qui a raison, quand on cherche à savoir comment je suis par rapport aux autres, c'est que nous-mêmes, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Que m'importe de savoir si Pierre, Paul, Jacques m'estime plus haut ou plus petit que lui? Ce qui m'importe, non, c'est le regard du Seigneur, non? Et tant que nous avons encore sur notre vie cette crainte du manque d'estime, du manque de reconnaissance, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous justifier, ni devant un frère, ni devant une sœur, ni devant le pasteur, ni devant les gens du monde, ni devant votre patron. Vous êtes ce que vous êtes. Amen. Et par la grâce de Dieu, vous êtes peut-être une vie nouvelle en Jésus-Christ, délivrée de toutes vos passions. Et si vous laissez le Seigneur agir dans votre cœur, vous avez un cœur rempli de sa personne. Qu'avez-vous à chercher à vous justifier? Bien sûr, il y aura toujours des choses à dire de notre vie, toujours. Sauf si quelqu'un était parfait, mais comme il n'y en avait pas ce matin, je ne vais pas parler pour lui. Donc nous qui faisons partie de ces gens qui sont imparfaits, bien sûr, il y aura toujours des choses à redire de nos vies, de nos caractères, de nos mentalités, bien sûr. Mais alléluia, ça nous fait une marge de progression. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si nous regardons toujours à devoir nous justifier sur les zones où nous ne sommes pas parfaits, mais nous allons passer notre temps dans la culpabilité, nous allons passer notre temps à nous détruire, à nous faire mal, nous ne verrons jamais le ciel, parce que nous regarderons toujours à notre poussière. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à regarder, à marcher avec les yeux fixés sur les autres, mais à les yeux fixés sur lui. Amen. Qu'importe le plus grand, qu'importe le plus petit. Jésus ira même le plus petit. Le plus grand, c'est le plus petit au milieu de vous. C'est celui qui sert de bon cœur. Alors servez, aimez. Et qu'importe. Les couronnes, c'est au ciel, hein, c'est pas sur la terre. Hein. Au psaume 26, verset 18-19, il est écrit... Proverbe. Très bien.
Ensuite.
Comme un furieux qui lance des flèches, qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « Mais n'était-ce pas pour plaisanter ?» Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « Mais n'était-ce pas pour plaisanter ?» De quoi nous parle ce proverbe? Il nous parle de ceux qui trouvent un très bon alibi derrière la plaisanterie. De ceux qui envoient des flèches, ceux qui donnent des critiques, ceux qui sont là, qui vont se servir de la plaisanterie pour vous envoyer un scud en pleine face. Qui vont vous dire, entre guillemets, vos quatre vérités au travers d'un beau sourire. Qui vont vous placer ça dans la conversation, bien pour vous torpiller le cœur. Et dès que vous allez avoir le visage qui va changer, « Mais attends, c'est pour plaisanter !» Ah oui. Ça, c'est un bon bouclier, hein. On balance, on a bien manigancé la chose, on place ça en bonne conversation, on est bien content de notre coup et on garde un bon sourire. Mais attends, c'est entre nous, c'est pas plaisanté, c'est rien. Et si c'est quelque chose? Je ne parle pas des blagues tant que l'on dit, qui font rire que nous et qui blessent l'autre. Bon, ça fait partie des maladresses. Mais là, il nous est vraiment parlé de celui qui cherche à faire mal et qui cherche à cacher ça derrière la plaisanterie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être de manière très spontanée, parce qu'il y en a qui sont devenus de vrais artistes dans ce domaine. D'autres cultivent ça dans leur cœur et vont trouver la bonne formule pour décocher ça. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, que le Seigneur nous retire cette mentalité. Ça relève de tout un domaine, le domaine du non-dit, le domaine de la critique, le domaine de ces choses que l'on dit avec des arrière-pensées, des phrases à moitié dites pour laisser l'autre végéter dans une sorte de culpabilité, où on emprisonne, où on fait du mal, où on cherche vraiment à semer le doute et la confusion dans l'esprit de la personne à qui on s'adresse. Et puis d'essayer de garder un faux semblant avec un petit sourire, le ton de la plaisanterie. C'est grave, ce genre de communication. Cela crée de la culpabilité dans le cœur. Cela crée du malaise dans les relations. Par nos paroles, nous pouvons détruire des vies, même si c'est dit au nom de la plaisanterie. Le mépris se développe. Parce qu'il y a le mépris de sa propre personne. Mais à force de prendre ce genre de langage trompeur, c'est le mépris qui rentre dans notre propre cœur, parce que nous, on a l'impression que l'on parle. Et de nous en dédouaner, mais ça devient du mépris, parce qu'on joue avec les sentiments, avec les personnalités, avec les émotions des gens. Ne soyons pas, nous trahirons la race à laquelle nous avons été appelés. En Matthieu, chapitre 26, versets 7 à 10, une autre situation, très commune. Une femme s'approcha de Jésus, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant que Jésus était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, encore eux, voyant cela, s'indignèrent. Vous comprenez là le sentiment qui remplit leur... Oh ! Et dire, mais à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Les reproches ouverts. Les reproches dits devant les autres. Les reproches sans prendre la peine de comprendre ce que l'autre a voulu dire ou l'autre a voulu faire. Toutes nos spontanéités ne sont pas toujours bonnes. L'autre a droit à l'erreur. Mais l'autre a peut-être fait quelque chose de bon aussi. Et ce n'est pas nous qui sommes placés à être juges. Il est bon d'entendre de réfléchir, non? C'est pas dans la Bible, il paraît qu'il faut remuer la langue cette fois dans la bouche. Bon, je ne le fais pas. Vous avez peut-être remarqué. Mais ça nous appelle quand même, et ce passage nous interpelle. Ils sont indignes et offusqués parce que leur compréhension des choses ne répond pas à leur conception personnelle. Et alors, la petite phrase qui va faire mal au cœur de cette femme. S'il y a une chose dont nous devrions nous mettre en peine, c'est de faire de la peine aux autres. Je reprends la phrase. Ce dont nous devrions nous mettre en peine, c'est de faire de la peine aux autres. Ça, oui. Arrêtons de peiner si facilement les autres. C'est facile. C'est facile de peiner quelqu'un. Et on pourrait même dire, mais c'est rien. Oh, il va s'en remettre, elle va s'en remettre. Oh, faut pas exagérer. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu me fasse grâce. Que les gens du monde fassent de la peine. C'est leur vie, c'est leur choix. Mais si nous acceptons de vouloir progresser avec le Seigneur Jésus, nous devrions, je crois, jusque dans ces détails, aspirer à ce que notre bouche ne soit plus un sujet de peine, de tristesse. Nombre de gens, et peut-être dans cette salle, ont été cassés, brisés dans leur cœur, parce que quelquefois dans leur vie, une remarque leur a été faite, comme une gifle, devant les autres. Ils faisaient quelque chose qui ne leur semblait ni bon ni mal, mais ils l'ont fait. Et voilà, devant tous, la gifle, la parole, la critique. Et quelque chose s'est cassé au-dedans d'eux. Une sorte de honte s'est installée dans leur vie. Le mépris peut-être même de leur propre personne, la peur du regard des autres. Parce que tout ça, ce sont les conséquences de ces paroles que l'on donne, que l'on balance à la figure de quelqu'un, sans prendre garde à savoir quel effet cela lui fera dans son cœur. Oh, elle s'en remettra, c'est rien. ayons de la délicatesse. Les disciples avaient droit de considérer que c'était du gâchis. Ils ne sont pas dans leur mauvais tort. D'ailleurs, dans cette histoire-là, ce n'est pas leur reproche qui est mauvais. Ils ont droit de gérer l'argent comme il faut. Et c'est même une bonne chose. Mais ils auraient pu en parler avec Jésus après. De toute façon, le parfum était répandu, hein, ils n'avaient pas le ramassé. C'était fait. Quelle était la nécessité là, de régler la chose? Le seul but, c'était de se justifier, d'humilier cette femme, de lui faire de la peine. Cette femme prostituée. Fausse consécration. Il y a des situations où il vaut mieux régler ça en intimité. Il nous est demandé à nous, les parents, de ne pas irriter nos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens, chapitre 3, verset 21, cher papa. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Apprenons à ne pas avoir de ces paroles où tout n'est jamais bien. C'est pas comme ça. Tu fais jamais rien de bon. Depuis le temps qu'on te le dit. Et on blesse, et on blesse, et on fait de la peine. Et le petit grandit, mais le tout petit dit rien. C'est à l'adolescence qu'il fait l'analyse de tout ce qu'il a entendu depuis des années. Et là, vous vous demandez pourquoi. Est-ce qu'il y a une telle haine, un tel refus, une telle difficulté dans le cœur, un tel mépris à votre égard? Parce que depuis qu'il est tout petit, on lui a dit qu'il était un bon à rien, qu'il ne fait jamais rien de bon. Et toujours là dans l'irritation, dans l'agacement. Il y a une différence entre éducation, pédagogie et irritation. La parole nous dit que la sagesse d'en haut, et je crois que tous les parents savent qu'on en a besoin de cette sagesse, mais la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, elle est ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Mais bien aimé, notre bouche doit distiller cela. Si tout le monde sait faire de la peine aux autres, tout le monde. Mais je crois que c'est quand on est enfant de Dieu, que Christ est dans notre cœur, que la parole de Dieu est dans notre cœur, avec le désir de servir l'autre prochain, qu'il y a cette capacité à communiquer cette grâce, cette modération, cette conciliation et tous ces bons fruits. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et c'est tellement naturel, n'est-ce pas, d'avoir une parole dure. Tellement plus naturel que d'essayer d'avoir une parole douce. Le Seigneur est bon parce qu'il nous a tous placés sur un très bon terrain d'entraînement. Vous savez où c'est le terrain d'entraînement? Ah, pas l'église, non, s'il vous plaît. Le premier endroit, c'est dans notre foyer. Un chrétien se voit dans son foyer. À l'église, on est tous beaux, tous gentils, on est tous cravatés, c'est facile de se saluer, de s'embrasser, de dire ciao, à dimanche prochain. Bah oui, c'est facile de s'aimer. On se voit qu'une heure et encore vous parlez pas, donc c'est encore plus simple. Non mais soyons heureux. Mais là où on doit travailler cela, mais c'est dans notre famille, dans notre foyer, c'est là que je vais apprendre. Et je dis aux jeunes gens, rappelez-vous que le mariage c'est pour la sanctification. C'est pas pour le bonheur, c'est pour la sanctification. Et la sanctification vous rendra heureux. Mais si vous vous mariez pour une simple satisfaction charnelle, émotionnelle, vous serez malheureux. Parce que la personne va avoir les mêmes motivations et vous allez vous faire très mal. Mais par ma femme, elle m'apprend à bien parler. Et moi j'apprends à ma femme à bien parler. Mon enfant m'apprend à bien parler et à me maîtriser. Et j'apprends à mon enfant à bien parler et à se maîtriser. Notre foyer, c'est le premier zone d'entraînement. Pas de guerre, hein, mais de grâce. Amen. C'est dans le foyer, que nous devons apprendre à cette douceur, à ne pas peiner. Et pourtant, il y a tant de situations dans le foyer au quotidien où nous pourrions peiner notre conjoint, nos enfants, n'est-ce pas? Et bien, c'est là que je vais apprendre, par la grâce de Dieu. Pourquoi faire de la peine? Prenons du recul. Ne mettons pas notre bouche à un usage mauvais. Alors, voyons maintenant quelques bonnes situations qui pourraient aussi nous être familières et en tout cas à laquelle nous sommes encouragés. Je n'ai pas su choisir l'un des deux versets, je vous les lirai l'un après l'autre. Proverbe 31, verset 8 dit « Ouvre ta bouche pour le muet, ouvre ta bouche pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Et verset 4 d'Ésaïe 50 « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Voilà la vocation de notre bouche. Ouvrir notre bouche pour le muet, défendre la cause du délaissé, de l'indigent, du malheureux. Avoir une bouche exercée pour relever celui qui est abattu. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous laisse encore une langue bien pendante, afin qu'elle soit bien utilisée. Je suis de ceux qui sont incapables de le vivre. Et je crois que la consécration n'est pas une question de faire, mais une question de cœur. Et si nous désirons être cela, si nous désirons être la bouche du muet, si nous voulons et si nous aspirons à être dans cette société, celui qui soutient la veuve et l'orphelin, le délaissé, si nous voulons et si nous aspirons, non pas à vivre comme des égoïstes sur cette terre, mais à avoir le regard sur celui qui est abattu afin de l'encourager, si nous y avons le cœur, le Seigneur nous donnera la force. Amen. Parce que c'est du cœur et de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien sûr, nous sommes incapables de le faire. Déjà, dans nos maisons, nous avons du mal à soutenir, à relever celui qui est abattu, n'est-ce pas? Nous nous sentons bien souvent handicapés. Mais si j'y travaille, le Seigneur va m'aider. Amen. Et si ma maison est un lieu où je dois m'exercer, alors je verrai d'autres bénédictions en dehors. Cela continuera également, effectivement, dehors, et vous allez certainement vous apercevoir que si vous avez à cœur que votre bouche soit un sujet de bénédiction, déjà vous commencerez chez vous. Mais vous allez vous apercevoir que Dieu va mettre sur votre chemin des gens qui vont avoir besoin d'être relevés. Ça fait partie de la pédagogie de Dieu, parce qu'il y a la phase théorique, c'est écrit, et puis après il y a la phase pratique, avance. Mais dans cette phase pratique, ça ne tombe pas toujours au bon moment. De temps en temps, il arrive que nous soyons déjà abattus, n'est-ce pas ? Découragé, on manque de foi, on est dans une situation, on ne comprend rien, on sort de notre chambre, Seigneur, pourquoi? Et là, il y a quelqu'un, oh, tu sais, ça va pas. Oh non, il manquait plus que ça. Alors, il y a deux solutions. Soit je suis un faux consacré. Oui, enfin, tu sais, moi aussi, j'ai des choses à faire. Excuse-moi, j'ai rendez-vous. Ou alors, Seigneur, donne-moi d'être un sujet de grâce pour mon frère, pour ma sœur. Et on prend du temps. On est comme le Samaritain qui a pris du temps, qui a fait un arrêt sur son voyage, qui est passé par l'hôtellerie, qui a même donné de son argent. Parce qu'on va être touché non pas par notre considération personnelle, j'ai mes propres soucis, mais touché de compassion pour celui qui est à côté, qui souffre. Et ce n'est pas nous qui avons la source de la solution, c'est le Seigneur. Alors Seigneur, s'il te plaît, permets que je sois un sujet de bénédiction. Et le Seigneur fera exprès de vous mettre les gens abattus sur votre chemin au moment où vous êtes vous-même abattu. Exprès, il le fera. Vous apercevoir et vous apprendre que vous êtes une source de bénédiction, même lorsque vous avez le sentiment d'être abattu. Parce que qui vit en vous? C'est le Seigneur, non? Est-ce qu'il a abattu le Seigneur en vous? Non. C'est le diable qui nous fait croire que nous sommes abattus, que ça ne va pas, que ceci, que cela. C'est lui qui nous fait croire ces choses-là. La Bible nous dit tout autre. Nous sommes remplis de bénédictions. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, oui ou non? C'est écrit. Et c'est par la foi qu'on remporte ces victoires. Et le Seigneur fera exprès de mettre sur notre chemin, lorsque nous nous sommes abattus, quelqu'un qui est aussi abattu, pour que, en même temps que nous l'exhortions, nous rappelions nous aussi la bénédiction du Seigneur. Amen. Et tant de fois pour ceux qui l'ont déjà fait, après avoir accroché, leur propre souffrance était passée, leur propre fardeau était passé. Et quand bien même est-ce que votre propre souffrance et votre propre fardeau ne passeraient pas, quelle bénédiction d'avoir soulagé le cœur d'un frère et d'une sœur. Amen. Parce que c'est là notre vocation. Lorsque Jésus était à la croix, La situation devait être très inconfortable. Mais il avait encore une parole pour prendre soin de sa maman. Hé, Jean, prends soin d'elle. Lui, il aurait pu dire, vous pouvez me lâcher la basket, là, j'ai un truc là dans le dos qui me fait mal. Mais il n'a pas fait quatre suites. Et jusqu'au bout, il a essayé d'être un sujet de consolation, de relèvement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le psaume 17, verset 3, c'est une prière de David qui dit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Tu peux me sonder, tu peux me visiter, tu peux faire un scanner de tout mon être. Seigneur Jésus, il n'y a pas de différence entre ce qui sort de ma bouche, ce qu'il y a dans ma tête et ce qu'il y a dans mon cœur. C'est limpide, c'est net, c'est clair. Il n'y a pas de fourvoiement, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de calcul. Seigneur, apprends-nous aussi à parler vrai, honnêtement, en toute vérité. Cela ne veut pas dire chercher à dire les vérités quand on veut, n'importe quand. Mais ça veut dire avoir un dialogue vrai avec quelqu'un. Un dialogue vrai. On parlait tout à l'heure des non-dits. Mais il n'y a rien de plus destructeur que les non-dits. Ces phrases, on dit quelque chose, mais en fait, la personne doit comprendre autre chose derrière ça. Ou alors, on ne lui dit pas les choses, mais on lui jette un regard comme ça. Et c'est à lui de comprendre que derrière notre regard, il fallait qu'il comprenne ça. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ben, si. Et nous, on est à un. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, pas du tout, il pensait au jardin, l'arrosage qu'il avait arrêté dans le jardin. Ah, oh, mais je pensais que... Et ça, on a tous vécu ça, non? Eh bien, qu'il n'y ait pas de ce genre de situation. Et quand bien même, n'est-ce qu'il y aurait de ces situations? Que nous ayons cette spontanéité. Et pas commencer à ruminer dans notre tête, parce que ça commence dans la tête. Oh, je suis sûr qu'il pense que ça. Et puis après, ça descend, ça va ici. Et là, on dit, oh, je suis pas bien, oh, j'ose plus. Et puis après, on arrive devant la personne, ça va. Mais on est coincé, parce que là et là, c'est crispé. Et devant le Seigneur, c'est pareil, n'est-ce pas? Qu'il y ait cette simplicité de parler, de s'échanger. Et s'il y a quelque chose à régler, qu'on puisse en parler, honnêtement, fraternellement, le cœur ouvert. Dès que le cœur est fermé, dès que la bouche est fermée, dès que dans nos pensées, nous restons dans nos « je pensais que, je suis sûr que, j'en étais sûr que c'était comme ça ». Mais c'est là qu'on détruit la communion fraternelle. Et c'est là que nous détruisons aussi dans notre relation avec le Seigneur, parce qu'on l'a déjà vu ça. On ne peut pas être « je suis en paix avec le Seigneur » si on n'est pas en paix avec les frères et sœurs. En Christ, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette simplicité. Alors je le rappelle, cela ne suffit pas qu'on doit tous se dire les quatre vérités ou mais prendre le temps de l'explication, de l'échange, de la liberté de parole. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour régler nos comptes, nous sommes là pour parler. Amen. C'est deux choses différentes. Nous ne sommes pas là pour nous étriper, pour nous justifier, pour dire qui a raison. Mais tout simplement pour parler, pour échanger, pour délivrer mon frère ou ma sœur de sa frustration et pour me délivrer de ma souffrance, de ma frustration. Nous devrions être un peuple avec qui on pourrait échanger de tout sans contrariété et sur tous les sujets. Luc chapitre 17, verset 3, Jésus dit « Prenez garde à vous-même ». Si ton frère a péché, eh oui, ça arrive, hein. Si ton frère a péché, reprends-le. Non, je dis ça parce qu'il y en a qui disent que dans l'église, tout doit être parfait. Bah, ça n'arrive pas, hein. On est d'accord, on revient. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Il y a deux réalités à retenir de ce verset. Le premier est relatif au péché. Si ton frère a péché, reprends-le. C'est-à-dire quoi cette phrase? C'est-à-dire que si je sais que mon frère ou ma soeur est dans une situation qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, j'ai le devoir, non pas d'envoyer le feu du ciel sur sa tête, mais de lui parler en toute vérité, sans chercher à me faire le docteur de sa conscience. Mais lui dire, mon frère, ma soeur, je crois que dans cette situation-là, c'est pas bon. La réaction de la personne fera comme elle veut. Hein. La Bible nous dit d'être en paix tant que ça dépend de nous. Mais notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, et pas seulement du pasteur, c'est de pouvoir avoir cette liberté. C'est pour ça que les points qu'on a vus avant ne s'effacent pas, ils se cumulent. Et avoir cette liberté de dire « Oh, mon frère, ma soeur, là, dans cette situation, je ne suis pas certain que ce soit ta place. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut faire. » Tu sais, la dernière fois que tu as réagi comme ça, on ne va pas le faire en public, mais avec tout ce qu'on a déjà vu avant, avec tendresse, avec douceur, sans chercher à peiner ou à tuer ou à détruire. Mais on doit s'exhorter au mieux, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit quelque part? Exhortez-vous tous les jours, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Donc c'est notre responsabilité de nous exhorter. Et si mon frère a péché, ce n'est pas pour lui donner la leçon, mais c'est pour qu'elle soit sauvée. Ce n'est pas pour le condamner, mais c'est pour qu'il retrouve une communion avec le Seigneur. La logique entre nous, ce n'est pas de nous faire du bien, de nous faire du mal, c'est de nous faire du bien. Alors la première, oui. Apprenons à nous exhorter, à ne pas cautionner le péché. Je l'ai déjà dit plus d'une fois ici, mais s'il y a de la médisance, c'est qu'il y a des oreilles pour entendre. Alors si quelqu'un vient nous apporter de la médisance, de la calomnie et des paroles, on dit stop. Alors déjà, j'ai pas envie d'entendre ça. Et puis moi, je te conseille de veiller sur ton cœur. Quel esprit t'anime en parlant de la sorte? Le deuxième vérité qu'il y a dans ce verset, c'est la notion du pardon. Si nous négligeons le pardon dans nos relations, c'est le début de la mort dans l'Église. Le pardon, ça doit être la base de notre relation. Et ça va dans les deux sens. À la fois, je dois apprendre à demander pardon. Et je dois apprendre à dire « je te pardonne ». Ces deux phases, alors bien sûr, on ne va pas développer tout hein, ce matin, mais le pardon doit être quelque chose qui doit faire partie de notre bouche, de notre vocabulaire, j'ai même envie de dire de notre identité. Même si on a fait de la peine à quelqu'un involontairement, mais ça arrive, n'est-ce pas? On doit avoir la spontanéité, bah, pardon, on s'explique, on s'accorde et on accorde et l'autre accorde le pardon et puis on avance. Il faut qu'il y ait cette simplicité. S'il y a du problème dans la notion du pardon, c'est pas un problème de pardon, c'est un problème d'orgueil, mes bien-aimés. Si je ne suis pas capable d'aller voir mon frère, ma soeur ou n'importe qui d'autre pour lui dire « je te présente mes excuses, pardon », alors c'est qu'il y a un problème d'orgueil dans notre cœur. Et si je ne suis pas, et si je n'accepte pas non plus d'accorder le pardon à quelqu'un, c'est que là aussi il y a un problème d'orgueil. Et là, c'est devant Dieu qu'il faut apprendre à solutionner ça et pas forcément à laisser le poids du non-pardon sur la personne qui nous aurait ou pas offensé. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et l'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18 qu'il parlait en langue plus que les autres. C'est ce que je veux retenir comme principe, c'est que notre bouche, et je garde la logique, hein, dans notre spontanéité, dans notre naturel, parce que c'est ça, les paroles vaines, hein, c'est les paroles qui sont dites en surplus, ces paroles qui viennent comme ça spontanément, il doit y avoir dans notre vie spirituelle une spontanéité à chanter le Seigneur, à le louer, à parler en langue, à le prier. Si nous n'attendons que le dimanche matin pour louer le Seigneur, c'est qu'il y a un problème dans notre sanctification. Si nous n'attendons qu'être à l'église pour exprimer notre prière à Dieu, c'est qu'il y a un problème dans notre sanctification, dans la vie spirituelle. Si je ne parle plus en langue, c'est qu'il y a un problème dans ma vie spirituelle. Je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi le parler en langue? On le verra tout à l'heure, mais il nous est dit que si quelqu'un est capable de maîtriser sa langue, il maîtrise tout son corps. Et bien quand le Saint-Esprit nous visite, il nous fait parler en langue parce qu'il a la maîtrise de notre langue, de notre esprit, de notre cœur et de tout notre corps. Amen. nous devons rechercher. Dans notre spontanéité de langage, de cœur, de bouche, à exprimer tout le long de la journée des prières, des chants, des cantiques, un parler en langue. Quoi qu'on fasse, quand on fait la cuisine, quand on se balade, enfin, dans toutes les circonstances de notre vie, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Que nous soyons, Éphésiens 5, entretenus par tous ces cantiques. Il y a un problème. Si dans notre vie, il n'y a plus cette spontanéité à cet exercice spirituel. Alors, on va terminer sur deux versets qui seront la conclusion. Le premier verset dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Le premier point de conclusion, c'est d'être conscient du pouvoir de la langue. Soyons conscients de l'effet de notre langue. Ne soyons pas comme tous ces mauvais exemples que nous avons vus, où nous pouvons si facilement nous identifier, n'est-ce pas? Et ma femme sera là pour témoigner. Mais l'essentiel, c'est de travailler à la consécration. L'essentiel, c'est cela, c'est de tendre à cela, que le Seigneur nous aide. Et si nous avons conscience du pouvoir de la langue, alors ça va nous stimuler. Si nous avons conscience que véritablement notre parole puisse être une source de bénédiction, alors on va y arriver. Mais nous, si nous sommes aussi conscients qu'elle a aussi un pouvoir de mort sur le cœur des gens, alors normalement nous devrions aussi être amenés à la repentance et dire « Pardon Seigneur, change mon cœur, change ma bouche, je ne veux plus parler comme ça, je ne veux plus faire du mal ainsi, que ce soit dans mon foyer, que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit à l'église, Seigneur !» Si nous avons conscience de la puissance de la langue, cela nous motivera. Et puis le deuxième, un encouragement, il nous est dit dans Jacques, « Nous bronchons tous » de plusieurs manières, bronchons, c'est nous trébuchons, nous faisons des erreurs, nous faisons des fautes, tous de différentes manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, au sens accompli, adulte, mature. Il est capable de maintenir tout son corps en bride. Et là, que ce soit pour nous aussi une motivation dans nos sanctifications. Seigneur, je vais apprendre à diriger ma langue. Parce que je sais qu'en dirigeant ma langue, je vais également canaliser mes pensées, mes états de cœur. Et toute ma vie sera transformée par cet effet. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Surtout les garçons, hein. Mais que nous réalisions que le meilleur zone d'entraînement, ce n'est pas l'église, non. Ce n'est pas avec les gens du monde, non. Ce sont avec ceux que nous disons les aimer. Que le Seigneur nous aide dans notre foyer à nous exhorter à cela. Amen.